France Inter.
Qu'est-ce qu'on fait de beau cet après-midi?
Alors, ici, c'est pas les activités qui manquent, hein, vous allez voir.
CO2, mon amour.
Alors, au Poule du, nous avons une sardinade. Sinon, il y a bien sûr le musée de la coiffe bretonne, un must. En plus, c'est à 10 minutes d'ici.
Denis Chessou.
Sinon, à la salle intercommunale Yvon Pouliquen, nous avons un atelier pour apprendre à confectionner soi-même sa bombarde. Tu sais, Antoine, c'est la fameuse flûte traditionnelle. Ou alors, on peut faire une rando.
Non, pas de rando.
Vous avez tort, hein, ça peut être très vivifiant.
Sur France Inter.
C'est tentant, mais en tout cas, c'est CO2 mon amour, non pas la bombarde, mais la nature qui chuchote à vos oreilles. Depuis ici, Dromardèche, que je remercie de m'héberger sous le soleil. À la technique, nous avons Jean-Christophe Deloche, Adèle Caglar à Paris. Notre collaboratrice, c'est Camille Blanès et Juliette Gou réalise l'émission. Qui commence par une petite humeur. Le ciel est tombé sur la tête de ce joli coin du Valais. Pas tout à fait le ciel, mais 3 millions de mètres cubes de roche sur le glacier de Birch. Ah, je me suis décroché avec mon sac à dos rempli de roches sur les épaules. Je suis tombé sur le village de Blatten que j'ai vu se construire. 20 000 ans que je connais les lieux. J'étais un glacier fragile. Le réchauffement a accéléré ma chute. Et voyez-vous, la Bérarde, le Valais, nous les glaciers dans le monde, on souffre et c'est vous qui trinquez. Je suis une métaphore en fait de l'effondrement du vivant, de votre capitalisme sans limite, colosse au talon d'Achille faiblard, avec ses trois tares humaines, l'imprévoyance, la cupidité et l'arrogance, comme nous le répétons avec Gilles Boeuf. Mais accélérez toujours petit bolide sur vos autoroutes du Tarn et d'ailleurs. On est tous des dealers et consommateurs de vitesse, sauf nous, les glaciers, les forêts, les sols, que vous retournez en quelques heures. Alors faites valser les ânes, ZFE, piétinez la nature, l'accord de Paris, n'écoutons pas 1000 scientifiques et médecins, arrachons les haies, faisons couler nos jus mortifères dans les cours d'eau. Comme on dit à la FNSEA et consorts, laissez-nous attraper nos lymphomes en paix, on en a 50% de plus que vous. Alors sympa qu'on est, on partagera nos maladies avec vous, hein, et les insectes et la nature. Ah, extrêmement important. Contrôlons aussi l'agence de sécurité sanitaire. Aux États-Unis, l'administration de Trump tire le tapis du vivant et de la démocratie à la sauvage. Agence environnementale fermée du jour au lendemain, agent licencié sans préavis, réglementation protectrice de la nature ébouillantée d'un simple décret. Jean-Jacques Fresco, dans son Média Info, poursuit. Chez nous, on n'utilise pas ces méthodes vulgaires, non. On ne coupe pas les vivres aux instituts de recherche, mais on travaille à un décret pour imposer à l'ANSES des usages prioritaires. En clair, on travaille à priver une agence indépendante de son indépendance. Il sera sous la coupe du ministère de l'Agriculture industrielle qui enjambera ses résultats sanitaires. Alors les néonicotinoïdes, oh bah pas prioritaire. L'agrandissement des élevages bassines, oh pas prioritaire non plus. Merci de regarder ailleurs et laissez-nous réchauffer, détruire le vivant sans contestation. Chez nous, on ne licencie pas les agents des services de protection des espaces ou des espèces, mais on travaille à fusionner arbitrairement les agences et à les détourner de leur mission. Alors ces sénateurs, députés et leurs amis seront-ils là pour rendre des comptes plus tard à leurs enfants et petits-enfants ? Les glaciers ne retenaient plus leurs larmes, leurs dernières larmes, en connaissant déjà la réponse. Alors même si nous sommes le week-end de l'Ascension, ben nous ne prendrons pas de la hauteur pour avaler l'air frais des cimes ou jouer les martinets en rondant diablé. Non, mais une autre jolie adresse bretonne nous attend, la réserve des Sept-Îles avec ses fous de bassin. Et c'est macareux.
Ancora mi abbandonai a vivere il fiore avaro della tua tempo non si ferma. Desiderata vita è trascurato amore, ma finché non si muore avremo sempre un cuore. E che stringa giuste nozze o che non sappia amare, vorrò sempre tornare al tempo della mia prima voglia, quando si godeva ancora. Mi abbandonai a vivere il fiore avaro della tua primavera. E ora sconvolto dal dolore, abbandonato nella mia sventura, se c'è qualcuno che non ha paura, io prego mi soccorra.
Eh ben oui, on a fait un petit détour donc par l'Italie, Laszlo de la Simone, la notte, donc la nuit, avant d'arriver ici en Bretagne. Mais déjà, elle nous attend. Lille aux Moines, Bonneau, Rouzic ne sont pas loin.
C'est somptueux cette île. Regardez le duvet blanc de l'île Bonneau, les silènes maritimes. Vous avez quelques reflets verts avec ces fougères, des reflets violacés, ces jacinthes. Voilà, on pourrait faire une jolie peinture. Et puis, cette vie animale, ces oiseaux marins, ces oiseaux qui reviennent sur les îles parce qu'il n'y a plus de fréquentation, parce qu'il n'y a plus de pression de rats, etc. Enfin, c'est fabuleux. On lui laisse la place qu'on lui doit à cette nature. Et imaginez que la plupart des îles, finalement, autour de la Bretagne, ben, sont dépourvues de cette nature. C'est dingue. Et aujourd'hui, quelque part, malheureusement, c'est une forme de sanctuaire, la réserve des Sept Îles, pour la plupart des oiseaux. Le macareux, voilà, c'est le bastion de l'Hexagone, alors qu'il n'y a pas si longtemps, en baie de Morlaix, mais aussi en Iroise, vous aviez du macareux.
Direction les Côtes d'Armor, avec un beau filet garni d'ailleurs en matière urbanistique côtière, hein, qui a quand même gentiment défiguré une bonne partie de ces lieux qui sont beaux, qui a fait galoper les prix et qui prive les jeunes qui y travaillent d'habiter là. Bon, ça se passe aussi dans d'autres coins de France. On pourrait d'ailleurs aussi diriger les gens vers une activité découverte des algues vertes. Eh bien oui, avec les baies qui vont avec, parce que ce département est bien placé sur le sujet. Et avec la loi du plomb en cours, eh ben, le concept a malheureusement pas mal d'avenir. Alors maintenant, on va se tourner vers le beau. La Bible a les sept péchés capitaux, Blanche-Neige a les sept nains, la Bretagne a les sept îles. Alors pour les humains et les sept îles, il y a surtout l'âge de l'arrêt des massacres d'oiseaux et du macareux moine. Nous sommes en 1910. La Compagnie des chemins de fer de l'Ouest propose à ses clients une belle excursion de tir aux oiseaux dans l'archipel. Et oui, que diriez-vous d'un joli bec de macareux moine comme trophée sur la cheminée? Voilà une idée publicitaire qui est bonne. Gros succès marketing. En 2 ans, nos macareux sont passés de 20 000 à 2 000 individus, donc de vie à trépas. Déjà, on notera le sens de la mesure des chasseurs de l'époque. Et encore, ils n'avaient pas Willy Schramm comme patron de la gâchette française à demander toujours plus. Les protestations ont permis la création de la réserve naturelle ornithologique des Sept Îles en 1912. Alors, je vous emmène dans un hotspot de la biodiversité ailée, dans la plus ancienne et importante réserve ornitho de France, donc la réserve naturelle nationale des Sept Îles. Elles sont, et ça c'est important, la propriété du Conservatoire du Littoral, qui fête ses 50 ans de travail patient, original, d'achat de foncier pour les soustraire aux appétits économiques. Donc vive le Conservatoire du Littoral. Et c'est la LPO qui ensuite gère le site, en lien avec l'État et une quarantaine de structures locales, donc c'est une espèce de mini-parlement. Alors on est au large de Perros-Guirec, on va vers le Beau avec Pascal Provost, qui est le directeur conservateur de la réserve, puis Armel Donio, qui est un garde passionné depuis son enfance. Nous sommes partis de Ploumanac et son très joli port, et on voit la vie en rocher rose en direction de l'île Rouzic, l'île des fous de Bassan et des macareux, ce petit perroquet des mers. Ce lieu, c'est un aimant. C'est un aimant! Comment ça se passe d'ailleurs entre tourisme, écologie et économie?
Je pense qu'on a encore une culture où on met de côté l'économie et d'un autre l'écologie, mais en fait, ici, c'est peut-être un gros mot pour certains, mais on parle de socio-écosystème. C'est-à-dire que la nature n'est pas déconnectée de son territoire. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce territoire? Il y a une histoire. Il y a des hommes qui y vivent, il y a des gens de mer. Et finalement, il faut considérer qu'il y a une situation d'équilibre et une espèce de coévolution entre un contexte de nature, grâce à la réserve des Sétides, pour le coup, qui se porte relativement bien, et puis des activités en place. Et donc, l'enjeu de demain, le défi, finalement, c'est que cette coévolution perdure et que les activités en place puissent s'accommoder aussi de contraintes environnementales et du coup d'avoir des activités en place durables de pêche, de loisirs, de tourisme. On appelle ça un peu les services rendus par la nature, les services écosystémiques. Ici, imaginez que les Sept Îles, c'est des centaines de millions d'euros de retombées économiques chaque année.
Ah oui, quand même.
C'est colossal, c'est-à-dire pour l'activité maritime, l'activité de transport à passagers, c'est vraiment un des moteurs de l'économie du territoire, et ça va même au-delà de ça, c'est une des identités fortes du territoire, parce que c'est lié à l'histoire des Sept Îles.
Armel, notre fou de Bassan, pourquoi est-ce qu'il mange de l'herbe là?
Alors, il ne mange pas de l'herbe, ils servent de l'herbe comme matériau pour le nid. Et ils apportent des algues, et ils apportent aussi malheureusement tout ce qui traîne en mer, y compris les déchets.
Ouais,
et ils le retrouvent d'une année sur l'autre.
Ça y est. Ils pondent combien d'œufs?
Alors le fou de Bassan, comme beaucoup d'oiseaux marins, c'est un seul œuf.
Ouais.
Un seul œuf. On a un outil qui est génial sur l'île Rouzic, c'est une caméra qu'on commande à distance et qui nous permet de suivre chaque année une zone d'à peu près une centaine de nids. Ça se portait très bien dans les années 90-2000 avec... 8 nids sur 10 qui produisaient un jeune. C'est un peu plus compliqué là depuis une dizaine d'années avec des mauvaises années où on tombe à 20% et les meilleures années, là maintenant on est à 60% de production de jeunes.
C'est-à-dire qu'il y a quand même le goéland. Le goéland, bah, il est opportuniste, il fait son métier, hein, il faut qu'il bouffe. Et donc il mange aussi des œufs de fou de Bassan.
Le goéland mange des œufs, mais le goéland a toujours fait partie de la vie du fou de Bassan, de la colonie. Donc c'est pas cet élément-là qui a changé en 20 ans. Le goéland était déjà présent il y a 20 ans et n'occasionnait pas de problème. Alors, en production en jeunes. C'est l'état de santé, l'état sanitaire des fous de Bassan.
Hein, on a eu la grippe aviaire quand même. Hein.
On a eu la grippe aviaire, mais avant la grippe aviaire, le fou de Bassan, ses conditions physiques corporelles sont moins bonnes et se sont dégradées. Se sont dégradées parce que sur les zones d'hivernage, elles sont moins qualitatives. Il se nourrit moins bien. Il arrive en saison de reproduction où il est moins en forme. Pendant la saison de reproduction, on a les stocks de maquereaux qui sont en diminution depuis des années, les stocks d'orphies qui sont en diminution. Donc ils trouvent moins d'alimentation. Et oui, un opportuniste comme le goéland vient profiter de cette faiblesse-là pour l'accentuer encore plus. Mais le problème n'est pas le goéland. Le problème, c'est les ressources et la qualité de l'environnement qui est moins bonne.
Là, on n'arrive pas à les compter. Hein. Je ne vais pas dire qu'ils assombrissent, qu'on ne voit pas les nuages, non, pas à ce point-là, mais quand même. Ah oui, ouais. On est toujours là, ne vous inquiétez pas, voilà. Et puis nous avons nos guillemots de troll. Alors là, ils battent des ailes, hein, ceux-là. Ce n'est pas des voiliers, comme nos macareux.
Ouais, mais... ces oiseaux-là vont avoir choisi un compromis entre l'aile pour voler et se déplacer dans les airs, mais pas très efficace, parce que petite, courte, pas très large.
Ouais.
Pourquoi avoir fait ce choix-là? Parce que c'est des excellentes nageoires et c'est un oiseau qui va voler sous l'eau et qui est capable de rattraper des poissons très rapides. Hein. Il chasse des poissons qui vivent en banc, les petites sardines, les petits lançons.
Oui, c'est quand même des petites torpilles. Hein, c'est ça.
Ah oui, là, faut mettre la tête sous l'eau pour les voir, c'est assez magique. Hein.
Alors comment on fait lorsque l'on est un phoque gris, parce que là vous avez quand même une très belle colonie, on voit 4-5 têtes, on est, allez, 40 mètres à peu près. Ils sont là, ouais, c'est ça, bon, ils nous regardent, très bien, jolie moustache bien sûr, mais j'aime quand même le poisson, et avec le pêcheur comment on fait ça, Pascal?
Là on a une situation de prédateur à prédateur, et donc du coup certains farouches opposants à l'extension des Sept Îles avaient des propos justement de il faut faire quelque chose, cette population de phoques est trop importante, il faut remettre en question le statut de protégé et tout ça. En fait, on pourrait croire que ces prédateurs, ces oiseaux, ces phoques, ces dauphins vont s'attaquer aux poissons de valeur commerciale et vont réduire les stocks de poissons et du coup ne plus avoir assez de poissons dans les étals. Eh bien, en étudiant les régimes alimentaires de toute cette mégafaune marine, alors des phoques gris, des fous de Bassan, des cormorans huppés, des maquereaux, etc., par de la génétique, par des bols alimentaires avec des photos, par des récoltes de pelotes et tout, eh bien on se rend compte qu'il y a des dizaines et des dizaines de proies différentes. Et ce monsieur Le Foc, lui, il s'intéresse aux congres. Et notamment, il chasse la nuit. Du coup, c'est une espèce qui ne va pas forcément, comme je le dis parfois, de se nourrir sur un plateau d'argent, de homards et de bars tous les jours. Et du tout. Maintenant, il faut qu'on tire sa place. Ce prédateur est présent depuis très longtemps, mais vraiment très longtemps. Au néolithique, il y avait déjà des phoques. Et il revient sur ces territoires jadis occupés. Entre-temps, il y a eu quand même la protection de l'espèce et puis une activité aussi goéminière et de ça moindre. Et du coup, en 2024, on avait autour de 90 naissances. En 2010, autour de 20-30. Donc vous voyez, donc une population qui augmente au niveau de la reproduction. Ce n'est pas des populations si importantes que ça. 90 naissances, c'est 3/4 des naissances de l'Hexagone. Donc je pense que c'est intéressant de prendre de la hauteur, tel un fou de bassin. Et finalement, ces phoques, comme c'est fou, ça va profiter à l'écotourisme. Combien de gens sont surpris, curieux de voir ces phoques gris sous nos latitudes? Et un petit point aussi de curiosité, en fait, avec des chercheurs d'Océanopolis, assez rapidement, on se disait, par rapport au changement climatique, que le phoque allait disparaître. C'est-à-dire que, voilà, en gros, il allait remonter vers le nord avec l'augmentation des eaux de surface. Eh bien non. En raison de sa plasticité dans l'écologie alimentaire, donc un régime très varié, eh bien, en fait, c'est ça qui l'emporte. C'est-à-dire que selon les saisons, selon les individus, il va se nourrir de tacos, de lieux, de vieilles, de congres, etc. Voilà, avec des habitats différents, de chasse, des forêts de laminaires, des dunes de sable et tout ça, du lançon. Et voilà, c'est ça qui l'emporte sur sa tolérance au niveau physio aux eaux chaudes. Donc finalement, il est en train d'étendre même vers le sud, vers les Glénans, son aire de distribution.
Ah, oui.
En face du loup, l'agneau flageur. Quand chasse le matou, la souris s'affole. Devant le reptile, le crapaud tremble. C'est pas facile de vivre ensemble. Mais aujourd'hui, il faudra changer notre petite vie. Sinon, danger sur ce bateau, on survivra. Que si les crocs ne servent pas, sur ce bateau, on survivra. Que si les crocs ne servent pas.
Alors parlez-nous quand même, Armel, de cet oiseau très emblématique. Il est petit, il est mignon, c'est notre macareux. Bon, il a failli y passer, comment il se porte aujourd'hui maintenant?
Le macareux, il se porte pas si mal finalement. Il y a beaucoup de pression déjà naturelle. Le faucon pèlerin l'a fait quasi disparaître de l'île Malban en quelques années. Ah ouais, ça c'est l'île qui est à côté, on comptait entre 30 et 50 couples sans problème il y a encore 15 ans. Certainement aussi la survie hivernale, les autres pressions ont fait que cette île-là a déserté. Après, c'est pas, il reviendra parce que l'île est accueillante, il n'y a pas de prédateurs terrestres. Donc la dynamique fera que dans quelques années, peut-être qu'on n'aura pas du tout le même paysage sur Malban. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Sur Rouzic, l'espèce se porte bien, notamment sur cette zone sud-là, où on a une cinquantaine de couples facilement observables qui se concentrent là et qui est magique.
Pascal, votre boulot, profondément, donc quel est-il?
Alors déjà, nous, on rend des comptes à l'État, finalement. C'est une mission de service public. L'État nous confie la gestion de cette réserve naturelle. Et finalement, c'est quoi notre boulot? C'est de convaincre tout le monde de la nécessité de protéger la nature. Et finalement, à force de protéger cette nature, les gens se rendent compte qu'on aussi, on protège nos liens à la nature. Et ce sont des liens ancestraux. C'est essentiel, c'est même plus tout aussi important si les gens ne sont pas convaincus de protéger la nature, de finalement qu'est-ce qu'ils mangent. C'est-à-dire que toute cette nature, elle va être génératrice de services de bien-être, c'est notre garde-manger, et créer des aires marines protégées, bah, voilà, ça a du sens.
Mais comment on se projette? Quel sens on donne en fait à sa vie, à son boulot, Armel?
Ah, une passion déjà, une passion de travailler ici. On fait plein de choses, hein, entre les oiseaux, les mammifères, mais on n'a pas parlé du tout du volet qu'on fait depuis aussi 20 ans, c'est ce qui se passe sous la surface, ce que les gens méconnaissent complètement, les algues, les poissons, etc. Et on étudie tous ces éléments-là, ce qui fait que Nos missions, finalement, c'est plein de petites briques qui s'assemblent magnifiquement en fin d'année et qui font que moi, au bout de 20 ans, je ne peux pas parler que j'ai une routine au quotidien.
Voilà, donc convaincre, fédérer, informer. Et donc, on va poursuivre aussi ce voyage sur les sept îles, mais tout en restant avec une chanteuse un peu bretonne.
Avons passé dedans vos prés, les avons trouvés bien fumés. Les marions, les roses, les roses font un beau bouquet. Elles sont jolies. Avons passé dedans vos blés, comme ils sont.
Marion les Roses, Nolwenn Leroy, et là, les fous de Bassan, donc écoutez attentivement, ils étaient au-dessus de nos têtes. Alors ça, c'est très impressionnant parce que vous en aviez à peu près une centaine avec leur 1m80 d'envergure à 5 mètres au-dessus de vous. Ils regardaient tout à fait tranquillement, ils avaient bien compris qu'ils n'allaient pas nous becter. Et puis nous avions aussi donc nos macaremoines que l'on retrouve beaucoup, beaucoup en Islande, en Écosse, en Scandinavie. C'est là que se passent les très grosses colonies. Et alors, évidemment, ils ont leur nez rouge, mais pas tout le temps. Ben non, c'est uniquement en période de séduction. Donc, ils n'ont pas de rouge à lèvres, mais ils ont un rouge à bec. On retourne donc sur... non pas sur, justement, Rouzic. Non, on n'accoste pas sur Rouzic. Mais juste à côté, on est à peu près une cinquantaine de mètres avec Pascal Provost et Armel Doniaux.
En fait, en travaillant ici, en nous confiant cette mission, moi et l'équipe en fait, des sept îles, c'est un projet collectif, eh bien, on a quand même des pensées aussi pour, par exemple, le colonel Milon.
Colonel Philippe Milon, pour le naturaliste que vous êtes, cette marée noire, ce qui vient de se passer, c'est un échec, c'est l'échec d'une vie.
C'est évidemment extrêmement dur d'avoir consacré une grande partie de sa vie à essayer de sauver cette réserve des sept îles, et de voir que ce qui en est le plus bel ornement, notre colonie de macaremoine, est très menacée. Mais nous allons continuer à nous battre. en particulier, j'ai grand espoir dans cette opération, aller chercher au Féroé des poussins de macareux et essayer de les acclimater aux sept îles. Nous voulons conserver à la France son unique colonie de macareux moines.
Par exemple, il parlait blancheur de l'île, de leur blancheur vivante, en parlant des fous de bassin. Et moi, ça m'a donné
c'était
des frissons.
C'était la coloration que donnait de la colonie de fous de bassin. Les uns à côté des
et en relisant ça en 2022, franchement, moi, ça me donnait des frissons. C'est-à-dire que cette colonie, elle a été attaquée de manière insidieuse par un virus. Non, mais du coup, là, c'était pas le pétrole, hein, c'est pas quelque chose
non,
qu'on voyait.
La grippe aviaire.
La grippe aviaire. On a eu des centaines, des milliers d'oiseaux à mourir. Non, mais c'était un vrai, véritable cimetière à la ciel ouvert. Et lorsque les gens du territoire nous disaient, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On n'avait rien à faire. Nous, justement, il a fallu comprendre. Et on sait que depuis, bon, elle est relativement saine, il y a des anticorps chez 20% des oiseaux, etc., etc. Mais en fait, on a même eu une mobilisation pour dessiner le mot « fou de bassin » avec 256 personnes. C'était marquant lors des journées du patrimoine de septembre 2022. Et donc, les gens voulaient marquer et voulaient dire « mais on est attaché à ça, là, à ce patrimoine » parce que entre janvier et octobre, on voit cette blancheur de l'île. Et donc, oui, en pensant au colonel Milon, s'il était là et après avoir vécu des tragédies, ce serait une nouvelle tragédie. Donc, nous, ça nous a marqué profondément. Et donc, demain, bah, finalement, notre travail consiste à anticiper les changements à venir et éviter de nouvelles tragédies.
Mais alors, il y a quand même eu justement des enseignements très intéressants sur cette grippe aviaire. Parce que bon, le premier truc que l'on fait, un État, il va sauver d'abord l'économie, il va sauver le tourisme, point. Ok. Bah, en fait, cette nature, elle s'est adaptée. Qu'est-ce qu'elle a fabriqué? Ses propres anticorps? Qu'est-ce qu'il y a eu là?
Bah, la faune sauvage nous a appris déjà quelque chose. C'est que ce virus qui, au niveau domestique, est létal. Un élevage qui attrape la grippe aviaire et euthanasié parce qu'il n'y a pas de survie.
Voilà,
nous, là, dans la faune sauvage, on voit que bah, 20% des oiseaux ont survécu à ce virus, l'a attrapé, l'a contracté, mais a survécu. Donc, déjà, c'est un bon enseignement, ça veut dire que la faune sauvage est plus résistante. Et c'est un beau pas pour l'avenir parce que ces oiseaux qui ont été en contact avec le virus va forcément donner de la résistance à la colonie dans les années futures. Donc, c'est peut-être quelque chose à réfléchir en cas de nouvelle crise. C'est comment aider ces oiseaux, là, comme quand il y a des marées noires, où on vient essayer de nettoyer les oiseaux qui sont pollués. Comment est-ce qu'on peut essayer d'assister des oiseaux qui sont infectés par le virus? Quel système de soins? Mais ça, c'est des moyens d'État à mettre en place, comme quand il y a une marée noire. Hein, les moyens associatifs sont trop vite dépassés.
Bon, qu'est-ce qu'on cherche là?
Bon, là, on est sur un site, l'île Bonneau. Quasi aucun oiseau marin dans les années 90, à part du goéland et du cormoran. Grosse opération d'éradication du rat sur mulot en 95. Et il a fallu attendre 7-8 ans avant d'avoir un premier retour des espèces un peu emblématiques. Le macareux qui est revenu début des années 2000. Les océanides de tempête qui sont revenus, un tout petit oiseau marin de la taille d'un passereau, qui est revenu avec des effectifs maintenant conséquents. On est le guillemot, le pingouin, l'épuffin des Anglais. On est à entre 150, aux alentours des 150 couples sur l'île Bonneau. Donc une mesure de gestion sur une île qu'on pensait qui était quand même assez pauvre, dans un contexte où le goéland était plutôt une espèce problématique, alors que maintenant elle est plutôt une espèce en déclin sur les espaces naturels. Voilà, la résilience.
Vincent Munier, dans une préface d'un bouquin des réserves naturelles, il a dit « J'aimerais qu'il n'y ait pas de réserves naturelles ». Mais vraiment, je le rejoins, oui, évidemment. Parce que finalement, voilà, le fait qu'il y ait des réserves naturelles, c'est un échec finalement de notre communion avec la nature, qu'on n'a pas d'autre choix. Et fort heureusement, il y a ce réseau de réserves naturelles. Et en l'occurrence, celle des sept îles, bah, elle est emblématique à différents plans, le plan de l'histoire, pour ces communautés d'oiseaux marins, ces phoques. Mais aussi, demain, on va en connaître de plus en plus sur le milieu sous-marin, les requins taupes, les dauphins de ruisseaux, les marsouins. On va faire plein de découvertes, ça va être superbe.
Une ouverture quand même sur le partage de la nature. On parle là de la protection de la faune, mais on laisse de la place à l'humain quand même. Cette plage de sable là qui est sous nous, qui est magnifique, et bah à partir du 15 juillet, on peut venir débarquer, faire bronzette, se baigner, parce qu'il n'y a plus d'oiseaux à nicher. Donc là, on a un partage de cette île-là, entre la faune en début de saison, au printemps, et l'humain en été, à la belle saison qui vient profiter jusqu'à fin septembre de la plage.
Le mot algue évoque irrésistiblement pour moi, et certainement pour beaucoup d'entre vous, les cordons de Goémon, abandonnés par la mer descendante, ou bien, car on en trouve dans les villes finalement, la garniture des plateaux d'huîtres à l'étal des écaillés. Je crois que peu de gens savent que le plus long être vivant existant sur Terre est une algue.
Alors si vous avez étendu cette réserve, bon bien sûr, ok, il y a le terrestre, mais dites, il y a ce qui se passe c'est-à-dire sous nos palmes.
Oui, c'est ça. En fait, les sept îles, la réserve historique, c'est un peu la partie visible de l'iceberg. Voilà. Vous avez des oiseaux marins, des phoques, voilà, c'est l'histoire, la réputation des lieux. Mais finalement, le garde-manger de toute cette grande faune, vraiment, qui attire le tourisme et voilà, et qui fait la réputation des lieux, eh bien, ce sont des poissons, c'est en dessous. Donc, il a fallu donner une dimension un peu fonctionnelle, un peu, tout autour des îles importantes. De nous, une nouvelle île, l'île Tomé, dans la baie de Perros-Guirec, et puis de nouveaux reposoirs pour les phoques gris au niveau du phare des Triagos, et un environnement marin. Et notamment, ce qui a permis de dessiner finalement cette réserve marine, cette extension, ce sont les forêts de laminaires. En fait, qui sont accrochés au niveau des plateaux en mer, ça s'étend jusqu'à environ 25 mètres de profondeur, et ces forêts, elles sont fabuleuses. Il y a plus ou moins un millier d'espèces associées. C'est notamment des enjeux et des habitats très stratégiques pour plein de poissons pélagiques et notamment les lieux. Donc, si vous les mettez à poil, ces forêts, bah, forcément, vous aurez des retombées. Et donc, c'est important de préserver un tout et chaque pièce du puzzle.
On est dans la famille des algues avec les laminaires.
Oui, tout à fait. Et ces algues, finalement, subissent déjà des évolutions. Et l'enjeu, peut-être demain, par rapport à un contexte climatique, là, à dérèglement total, c'est faire en sorte que notre environnement soit plus résilient, et c'est un secteur de moindre évolution qu'ailleurs, et que la nature ici s'adapte mieux que dans d'autres contextes où vous avez déjà des pressions en place. Soustraire les pressions et faire en sorte que la nature s'adapte, sachant qu'on ne figera pas les choses. Peut-être que demain le macareux disparaîtra, les Anglais le prédisent d'ici 2050, ces forêts de lamitaires dans leur composition vont changer, etc. Il y aura des espèces méridionales qui vont changer. Mais il faut des coins de nature où elles puissent perdurer, qu'on foute la paix à ces habitats, ces espaces, tout simplement.
C'est une vraie forêt, hein. On parle de la laminaire, là, mais il faudra en parler avec Sandrine Derrien. Elle voit des choses que nous, on ne voit pas. On ne voit pas les 10 autres espèces d'algues qui sont présentes sur le pied de laminaire. C'est une algue structurante et sur laquelle il y a plein de vie.
Qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter maintenant de beau?
De beau, ouais. Une belle mer.
Belle mer.
C'est déjà pas mal.
C'est déjà bien. Et pour vous, Pascal, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter?
En fait, déjà, l'État nous a permis d'agrandir l'équipe. On va avoir un deuxième bateau, etc. On a les moyens de travailler sur cette réserve avec du scientifique, avec de la police de l'environnement et beaucoup d'informations. Et c'est pour ça qu'on est sur France Inter aujourd'hui. Et franchement, qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter? Bah, que la nature nous aide peut-être, et on ne va pas demander qu'elle nous remercie, mais je pense surtout et aux hommes de nous aider, et c'est la responsabilité de tout le monde finalement de préserver cette nature et la réserver cette île.
Enfin, ce qui est formidable, c'est quand même de voir aussi que quand on aide la nature, mais juste ce qu'il faut, pas plus, en tout cas quand on lui fiche la paix, ça peut repartir quand même assez bien, quoi.
Oui, c'est vrai. Et c'est là où...
C'est pas nouveau, ce que je raconte.
C'est vrai. Et là, je pense qu'il y a des leviers différents. Il y a l'enjeu national, international. Il y a des politiques publiques pour protéger la nature. Mais franchement, c'est-à-dire qu'on est 6 agents marins plongeurs. Ça peut faire sourire. Mais c'est-à-dire que demain, on ne sera pas 30 avec essentiellement des gens dans les bureaux.
Pourquoi?
Non, notre job, il est d'être au chevet de la nature, et il est d'être au chevet des gens de mer et du territoire. C'est-à-dire qu'on y vit aussi, hein. C'est-à-dire qu'Armel, il va faire de la pêche promenade, j'ai un autre collègue qui fait du surf, un autre qui fait de la chasse sous-marine, moi je fais de la pêche à pied, hormo, etc. C'est-à-dire qu'on y vit, on le comprend, cet environnement. Et finalement, on est en lien presque permanent avec les gens du territoire et tout ça. Et je pense qu'en fait, il faut que les regards changent. Putain, mais arrêtez de croire qu'on est des écolos de base et qu'on va tout interdire et qu'on n'a pas notre place en territoire. C'est-à-dire que cette nature, elle profite au territoire. Territoire, elle génère des retombées économiques colossales. Et en fait, le job qu'on fait, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est pour la société de transport, c'est pour chacune des communes du territoire, c'est pour les gens qui viennent plonger, qui viennent faire du kayak, de la plaisance, c'est pour les pêcheurs pros, c'est pour tout le monde. Donc en fait, on devrait peut-être nous décorer, on décore des élus, on décore, mais je préfère qu'on décore des gens qui travaillent dans les écoles, des gens qui travaillent dans les hôpitaux, et des gens peut-être comme nous qui travaillons à protéger la nature, parce qu'on protège d'une certaine façon l'humanité de demain.
Focus donc sur ces sept îles et sur le travail de Pascal Provost et d'Armelle Degnaud, et aussi donc montrer que la police de l'environnement fait avant tout énormément de pédagogie et on en a besoin. Grand merci à Isidro Mardèche, à Jean-Christophe Deloche, à Loïs Moreau, à Thierry Dupin qui a programmé les disques, à Camille Blanès et Juliette Bou donc qui a réalisé cette émission. Nous étions sur la mer. La semaine prochaine, allez hop, on nous repartons à la montagne avec Hervé Pochon. Ça vous dit quelque chose? Eh ben oui, on sera au pied de sa montagne tutélaire dans les Hautes-Alpes et ainsi que Christian Couloumi, notre monsieur montagne. On se retrouvera là à 2700 mètres entre ciel et aigle. Je vous retrouve sur Instagram, sur LinkedIn, sur Blue Sky et puis l'application Radio France. Donc surtout, ne vous gênez pas, vous en avez l'habitude si vous souhaitez vous abonner à CO2 Mon Amour ou bien aussi nous écrire. C'est tout à fait possible. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de dimanche.